Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons en ligne Johnson Ishara, membre de la société civile du Nord Kivu. Il est coordonnateur national de la dynamique Génération Conscience du Genèque RDC Atbel. Il est aussi chercheur en gouvernance sécuritaire et politique et activiste engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Bonjour Johnson Ishara.
Bonjour Monsieur Guy. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Gabi.
Et aussi en ligne, Madame Das Chako, elle est journaliste à la RCGA FM, mettant de Kinshasa. Elle est aussi coordonnatrice de l'ONG Leadership de la Femme des Médias. Elle est aussi conférencière. Bonjour Madame Das Chako.
Bonjour Monsieur Guy, bonjour à tous les auditeurs de la
RCGA. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. Bonjour Benoît Feit.
Oui, bonjour Guy, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Okapi ainsi qu'à vos invités pour cette émission.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Johnson Ishara, membre de la société civile du Nord Kivu. Il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente d'IGENEC RDC-AFBEL. Il est aussi chercheur en gouvernance sécuritaire et politique et activiste engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Madame Das Chako, elle est journaliste à la RTGA FM, mettant de Kinshasa. Elle est aussi coordonnatrice de l'ONG Leadership de la Femme des Médias. Et elle est également conférencière et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique. Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa annoncent une série de mesures pour réguler la circulation dans la capitale de la RDC dès ce lundi 26 janvier. Il s'agit entre autres du déploiement des 3000 agents de la police nationale congolaise et de la division urbaine des transports. Possible ouverture d'un procès en Belgique contre Étienne Davignon, le dernier accusé encore vivant dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et enfin, drame humanitaire et économique à l'est du pays, quelle approche gouvernementale pour des réponses rapides en intervention aux populations en détresse. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la position de la Belgique et de la France sur l'initiative de la tenue d'un dialogue national en RDC. En effet, la Belgique soutient la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC. C'est le ministre belge des Affaires étrangères qui l'a annoncé le mardi 20 janvier. Maxime Prévost a formulé cette requête en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Sur son compte X, le chef de la diplomatie belge a souligné la convergence des vues entre Bruxelles et Kinshasa sur la résolution du conflit dans l'est de la RDC. Nous avons réaffirmé notre engagement pour une solution pacifique dans l'est de la RDC et le respect pour son intégrité territoriale et encourager un dialogue national inclusif, a-t-il précisé. La France également préconise les dialogues intercongolais en RDC. Dans une communication datée du 19 janvier 2026, par la voix de son ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ces pays encouragent les dialogues intercongolais comme solution à cette crise qui sévit dans la partie orientale de la RDC. Dans cette communication, Paris considère cette initiative comme complémentaire au processus en cours à Doha, à Washington et à la médiation africaine. Johnson Ishara, comment vous analysez les soutiens de la Belgique et de la France à l'idée de la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC?
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Encore une fois, je salue tous les compagnons de débat qu'on a invités également dans cette partie de l'émission. Je salue également, au juste titre, l'initiative de la France, de la Belgique, qui connaissent mieux également le pays, le nôtre, la République démocratique du Congo, et qui ont également un rôle majeur à jouer. Je pense que la crise aujourd'hui que le pays est en train de traverser, elle est mondialement connue et elle affecte également beaucoup de pays. Donc je comprends également cette volonté pour ces pays-là à inciter le gouvernement en place d'aller sur la voie du dialogue. Oui, comme ça a été dit, on est passé au-delà de Doha, on est passé à Bujumbura, on est passé à Nairobi, on est passé à Luanda. On est passé maintenant à Doha, on a chuté par Washington, on a senti que contre toute attente, les choses n'ont pas évolué selon les attentes populaires et selon les attentes de l'opinion aujourd'hui. Alors, il se pose maintenant beaucoup de problématiques autour du dialogue dans le sens inclusif. Parce que c'est vrai qu'on voulait que le dialogue qui soit entamé, que ce soit ce dialogue-là sur l'initiative de l'ANCENCO, mais on sent que le gouvernement continue à camper sur sa position, qui ne cédera pas à l'approche de l'ANCENCO, mais plutôt ça doit être un dialogue initié par le président de la République et qui doit se passer au pays d'après la première communication du ministre de la Communication. Mais bon, on comprend que la démarche maintenant, ce n'est plus au pays, ça sera au Togo. Alors, Monsieur Guy, ce qu'il faut savoir, vous savez, dans un processus de résolution des conflits, il est très important de ne pas déconsidérer les acteurs clés au conflit. Et les acteurs clés aujourd'hui, on voit qu'il y a le président de la République qui a couteau tiré avec une opposition armée, une opposition non armée, et bien entendu également une opposition silencieuse. C'est cette opposition-là qui est dans la société civile, qui n'est pas d'accord ou d'accord avec ce qui se passe au pays. Mais quelle est l'histoire qu'on peut peindre aujourd'hui? Quel est le tableau qu'on peut peindre, Syra? L'approche du dialogue du président Félix Tshisekedi. Parce que le dialogue, ça veut dire que vous venez avec votre cahier des charges, l'autre vient avec son cahier des charges. Alors, on est d'accord sur quoi, on n'est pas d'accord sur quoi, je suis prêt à céder quoi et je ne sais pas quoi. Alors, on en sentit quand même, si on fait un fait historique, ce que le président Félix Tshisekedi n'est pas un homme positif en termes de consensus. Voilà. Donc, si même on part de ce qui s'était passé à Genève, on se rappellera que après la réunion de Genève, il avait dit à ses collègues que lui, il a écouté la base. Donc, pour lui, la base n'est pas d'accord avec une mise en commun des efforts. Il s'était retiré de cette. On peut également se rappeler que dans l'approche avec le cash à Nairobi, avec l'UNC de Vital Kamerhe, ils ont pris des engagements, mais ces engagements ont enfanté d'une souris même. Donc, ça n'a pas marché. Alors, si on revient même sur les rapprochements FCC-Cash, eh bien, on peut quand même retenir que le président honoraire, Joseph Kabila, qui a été pour le compte du FCC aujourd'hui, qui serait condamné à mort, recherché par son secrétaire. Donc, on comprend en réalité que on a non seulement des acteurs qui, dans leur histoire, de s'approcher pour parler et traiter les questions d'État, ils n'ont pas de bons souvenirs entre eux. Et donc, si maintenant on peut s'imaginer un dialogue inclusif, eh bien entendu, il faut dire qu'il faut maintenant avoir des approches innovantes.
Merci, Madame Gass-Chaco. La France et la Belgique et l'Union africaine, comme l'opposition, prônent un dialogue national inclusif, ce qui ne semble pas être les points de vue de Kinshasa. Vous avez suivi Johnson Ishara. Et Kinshasa qui pense qu'à ce dialogue, on ne doit pas, n'est-ce pas, associer les personnes qui ont pris les armes contre la République. Et à votre avis, comment peut-on harmoniser ces deux points de vue?
Alors, ça sera très difficile aujourd'hui de concilier avec l'approche du pouvoir, de la majorité, sur un dialogue inclusif. Je pense que les derniers événements, avec les arrestations par-ci par-là, surtout celui en dernier en date de M. Obaminaku, continuent de prouver que l'approche du dialogue inclusif avec une opposition armée ou non armée n'est pas l'option de la majorité ou du gouvernement. Mais moi, je pense qu'il faut rester honnête et quand même lucide sur la question du dialogue national. Personnellement, je reste encore très, très dubitative par rapport à ça, pas parce que je suis contre le dialogue en soi, mais parce que la RDC a connu une multitude d'initiatives autour du dialogue qui malheureusement n'ont toujours pas produit des résultats concrets sur le terrain. Ce que la population veut maintenant, c'est peut-être
une accalmie profonde, mais aussi des résultats sur le terrain. Est-ce que le dialogue inclusif va mener des résultats ou c'est encore un partage de gâteaux? C'est aussi la question que la population est en train de se poser. Donc il faudrait y réfléchir. Aujourd'hui, quand la Belgique et la France encouragent un dialogue national inclusif, c'est une position diplomatique compréhensible et c'est normal. Mais la vraie question, elle demeure, est-ce que ce dialogue va nous emmener quel impact réel encore? Il y a quelques semaines, le président de la République a fait des allers-retours en une semaine pour aller vers Luanda. Nous revenons toujours au même processus. Togo a encore appelé autour de la table pour trouver des solutions à la guerre qui est en RDC. Il y a une multiplication d'initiatives, mais est-ce que le problème va se résoudre simplement avec le dialogue? C'est la question que nous nous posons. Je pense que nous avons besoin d'un dialogue, mais je pense que le dialogue doit plutôt aller dans le sens de ne pas prendre les discours politiques, mais déboucher d'abord sur une paix réelle. Parce que tout ce qu'il y a comme initiative jusque-là, il n'y a pas d'impact réel sur les terrains, surtout à l'est du pays. Donc de manière générale, oui, à un dialogue avec des conditions. Vraiment, que le dialogue soit responsable, que le dialogue soit sincère, qu'il soit orienté vers des résultats concrets. Sinon, on risque de tourner en rond.
Merci. Benoît Faït, qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, expliquer l'intérêt que la France et la Belgique affichent aujourd'hui, n'est-ce pas, sur l'initiative de la tenue d'un dialogue national inclusif?
Oui, Guy, je voudrais tout d'abord souligner que je rejoins entièrement ici les excellentes analyses que vos invités, Grasse et Johnson, viennent de produire, en soulignant bien toutes les limites de cette initiative, en tout cas de cette déclaration. Alors, du côté de la Belgique, ce qu'on peut dire, c'est que la Belgique marche un peu sur des œufs. Vous savez que la Belgique a rompu ses relations diplomatiques avec le Rwanda, qu'elle essaye depuis lors quand même de renouer une forme de dialogue, de lien, pour ne pas laisser perdurer cette rupture. Donc, elle se doit aussi de maintenir un regard, on va dire, relativement critique, tout en s'affichant clair sur les positions belges à l'égard de Kinshasa. Donc, il y a un jeu un peu compliqué pour la diplomatie belge. Il ne faut pas rompre, évidemment, avec le gouvernement congolais et son président, mais il ne faut pas non plus donner l'impression qu'on le suit aveuglément pour garder une forme de crédibilité sur la scène internationale dans l'espoir, un jour, de redevenir peut-être un des possibles médiateurs entre Kigali et Kinshasa, ce qui est en fait le rôle diplomatique historique de la Belgique en Afrique centrale depuis des indépendances, et on sait évidemment pourquoi, toutes les raisons historiques qui ont mené la Belgique à être liée à ces deux capitales, à ces deux pays. Alors aujourd'hui, la Belgique ne peut donc pas en dire moins qu'elle soutient un dialogue inclusif, mais comme l'ont rappelé les autres invités, ce n'est jusqu'à présent que des déclarations. On se demande de quel effet ça pourrait être suivi, parce que admettons qu'il y ait un dialogue, jusqu'où sera-t-il inclusif? On sait, vous l'avez rappelé, vos invités l'ont rappelé, qu'une partie de l'opposition congolaise non armée est de facto déjà exclue, en tout cas est pourchassée et quelque part primée. Donc on a du mal à comprendre comment de cette position on pourrait inclure le PPRD, pour ne pas le citer. Et puis si finalement il y avait malgré tout dialogue, on arrivait à rabibocher toutes les différentes factions de l'opposition, ce compris celles qui ont été vraiment à couteau tiré avec le pouvoir de Kinshasa ces dernières années, est-ce qu'on n'arriverait pas malheureusement alors à une espèce de logique de partage du gâteau qui n'aurait pas beaucoup de conséquences positives pour la population congolaise qui doit rester au cœur des préoccupations? Vers quoi peut amener ce dialogue? Est-ce que c'est pour amener de véritables réformes qui permettraient à tout un chacun et à chacune de se retrouver aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir, mais toute province confondue, pour le dire comme ça aussi, qu'il y ait un véritable sentiment que tous les Congolais peuvent participer à la chose publique dans une certaine égalité, ou est-ce qu'on va simplement mettre autour de la table des individus qui vont s'accorder sur un partage du gâteau, et ça dans la perspective où le président accepterait de mettre tout le monde autour de la table, ce qui semble aujourd'hui encore très incertain. Donc, pour en revenir au rôle de la Belgique, je pense que la Belgique ne peut pas dire autre chose aujourd'hui, mais je crains que les déclarations de Bruxelles n'aient pas beaucoup d'implications sur le terrain.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Mbongo, cette composition de Lutumba Simaro Massia dans Ok Jazz avec la guitare de Franco Rambo Makiadi. On écoute donc Mbongo et on se retrouve juste après.
Thank you. yakangelanga bwato ekotiola likolo ekoyinda yoka mokili ezali nde koningana lisolo mosusu te kaka se mbongo odele yanganga mama mikolo mikomi nde na suka bolingo ozali koboya ngai mokolo ya yambo nabosanaki kotuna yo selija date yo koboya ngai eloko yo mobongisi eloko yo mobebisi nalela ntina nini ondako yanganga bapekisanga nde nakota kelani noki nasuwa liboma malere lokola ngai likambo ya nsomo nganga asengi nga lisusu mbongo eloko yo nga nazali koluka desespoir selija depisanga mbongo na dondwa nazali na mfuka ya moto te
Mbongo, mbongo, cette belle composition du poète Simaro Lutumba Massia dans l'orchestre Oké Jazz. Vous avez reconnu la guitare de Franco Luambo Makiadi. On revient à la côté cette semaine. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a annoncé lundi 19 janvier le déploiement dès le lundi 26 janvier de 3000 agents issus notamment de la police nationale congolaise, de la division urbaine des transports et de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle. Ces agents seront déployés sur 60 carrefours et les axes routiers sensible de la capitale pour lutter contre les embouteillages et protéger la vie des usagers. Leur mission est claire, faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation, a déclaré l'autorité provinciale. Madame Grace Chaco, vous êtes journaliste à la RTGA FM, mettant de Kinshasa. Vous êtes aussi coordonnatrice de l'ONG Leadership de la Femme des Médias. Vous êtes également conférencière. Vous avez, n'est-ce pas, souhaité nous parler de cette série de mesures prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour réguler la circulation à Kinshasa. On vous écoute.
Alors, cher Guy, concernant la situation de Kinshasa, de plus en plus, elle me monte à cœur parce qu'il y a une anarchie organisée, je vais l'appeler comme ça, une anarchie chronique. C'est bien que le gouverneur de la ville puisse se pencher sur la circulation à Kinshasa après tout ce que les gens ont dénoncé sur les embouteillages, sur les heures qu'on passe sur les routes de Kinshasa, sur le manque de routes, également sur l'incivisme routier et tout ce qui va avec. Donc il est très bon que la ville de Kinshasa finalement puisse s'intéresser de plus près à cette question et nous encourageons cela. Même si pour moi je pense que 3000 agents pour réguler la circulation dans la ville de Kinshasa est très peu ou insignifiante dans une agglomération qui compte, on va dire, 15 millions d'habitants avec des routes quasiment inexistantes, mais on déploie quand même 3000 agents, c'est énorme. Il faut aussi dire que, et lorsque l'annonce a été lancée, en tant que journaliste, nous avons eu les échos, les retours des Kinois, c'est que voilà, c'est une nouvelle arnaque de la ville de Kinshasa pour se faire encore de l'argent. et pour pouvoir rançonner, parce que finalement, cette confiance entre l'Équinois et ses gouvernants, il n'y en a plus. Donc pour moi, déployer 3000 agents pour la circulation, c'est quand même nécessaire. Comme je le disais tout à l'heure, Kinshasa est devenu quasiment ingérable sur le plan routier. Mais permettez-moi d'ouvrir une autre parenthèse. Toujours dans cet aspect de la ville de Kinshasa, parce qu'à mon avis, il faut nuancer le problème. Le problème de Kinshasa ne se limite pas à la circulation routière comme telle. On ne peut pas parler de mobilité sans parler d'incivisme routier. On ne peut pas parler de mobilité sans parler d'insalubrité dans la ville de Kinshasa, ni encore d'insécurité. L'insécurité vient en troisième position. L'insalubrité aussi contribue. Aujourd'hui, selon plusieurs rapports de la police, on le sait, le taux de criminalité à Kinshasa a fortement augmenté, le vol à main armé, les braquages, surtout les agressions nocturnes dans certaines communes. On parle chaque semaine des dizaines de cas signalés. Donc, pourquoi la ville de Kinshasa ne s'attaquerait pas d'abord à la sécurité de ses citoyens en premier, ne s'attaquerait pas d'abord à l'insalubrité parce que cela cause des maladies directes, et va d'abord s'attaquer au contrôle routier. Et d'ailleurs, il faut préciser quel contrôle, c'est sur les papiers. Est-ce qu'on est en train d'éduquer la population au civisme? Est-ce que l'urgence, elle est là-bas? Moi, je pense que l'urgence est plus large. Il faut investir, je vais appeler ça sous une forme d'éducation au civisme routier pour la gestion de l'espace public à Kinshasa. C'est ça le véritable problème. Il faut absolument que les gouvernants de la ville de Kinshasa puissent voir comment faire pour mieux respecter le code de la route. Il ne faut pas des solutions répressives. Il faudrait d'abord une sensibilisation pour que les gens respectent les agents de l'ordre, respectent l'espace public. Il faudrait continuer sur un ensemble de sensibilisation. Si les 3000 hommes étaient là pour une période bien limitée, je ne sais pas moi, un mois ou deux mois, pour apprendre. Ensuite, celui qui ne connaît pas, par exemple, lorsque vous allez vers la Tchang ou là-bas, c'est un taux élevé d'incivisme routier. Lorsqu'on sensibilise, on apprend. Est-ce qu'il y a d'abord des feux rouges, des panneaux de signalisation dans la ville de Kinshasa? Il n'y en a pas. C'est un problème large. Moi, je pense que commencer directement comme ça le 26, donc le lundi prochain, avec ce genre de mesures, d'abord, vous savez qu'il y aura un sérieux problème. Plusieurs véhicules ne sortiront pas. J'ai lu un rapport ce matin qui disait qu'il y a plus d'un million de véhicules dans la ville de Kinshasa, mais qu'il n'y a que 400 000 véhicules ou 500 000 qui sont passés au contrôle routier. Ce qui veut dire que le lundi, il n'y aura même pas le trois quarts de véhicules dans la ville de Kinshasa. Ça va poser un problème énorme pour les déplacements, pour ceux qui doivent aller à l'école, pour ceux qui doivent se rendre au travail. Donc, il y aura un sérieux problème. Encore, on ne résoudra pas le problème en frustrant les Kinois. Il faudrait que ce problème soit pris de manière large. Et je pense que pour ma part, le gouvernorat de la ville de Kinshasa s'y prend très mal.
Merci, Johnson Ishara, membre de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente du GENEC RDC Asbel. Vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste et engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Déployer 3000 agents de la police nationale, de la division urbaine des transports, de la brigade spéciale de protection de l'environnement et de la régie des fourrières et du contrôle, suffit-il pour résoudre convenablement cette problématique des embouteillages dans cette ville de Kinshasa? Vous avez suivi Madame Grace Chaco, qui estime qu'il y a des urgences auxquelles il fallait d'abord s'attaquer, notamment l'insécurité dans la ville de Kinshasa ainsi que l'insalubrité.
Je voulais remercier Madame Grace d'avoir évoqué cette question-là, parce que pour moi c'est une question très majeure pour une capitale d'un grand pays comme le nôtre. Et que notre organisation, d'ailleurs, s'était penchée sur cette question, bien que nous avons touché plus la question sur l'insalubrité. Mais comme Madame Grasse l'a dit, ce sont des questions transversales, donc on ne peut pas traiter une question et laisser une autre. Mais à l'entendre, Monsieur Guy, parfois je me pose la question, vous savez qu'il y a certaines décisions qui sont prises par les autorités de la ville province de Kinshasa, qui en résumé, si nous étions aussi très, très, très sérieux envers nous-mêmes et si nous étions très durs envers nos gouvernants, on allait quand même conclure qu'il y a certaines décisions qui sont prises qui prouvent qu'on ne doit pas dire respect aux citoyens congolais. Tenez, qui a dit que pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa, on a besoin des brigades sur le voie routière? qui a dit ça, qui a dit que la réponse rapide, efficace, efficiente aux embouteillages, c'était de déployer les agents sur terrain. Je vous dis ce que les autres ne vous diront pas, monsieur Guy. Vous savez ce que ces agents font? Arriver au niveau du pont. Lorsqu'il y a maintenant beaucoup de motos et qu'il y a maintenant des gyrophares qui arrivent avec les mêmes autorités, il y a toujours des militaires ou des policiers qui sortent dans leur véhicule avec des baïonnettes et qui commencent à gifler, frapper tout le monde, même un client qui est sur la moto. C'est ça ce qu'on appelle, on va déployer des gendarmes sur terrain pour veiller contre les embouteillages. Monsieur Guy, je vais vous dire, ce genre de décision prouve qu'on n'a aucun respect envers le Congolais, envers le Tunois. Parce qu'en réalité, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, il faut écouter les citoyens lambda. Et les citoyens lambda s'est prononcé à travers l'Assemblée nationale, ne l'oublions pas, face à la problématique des embouteillages à Kinshasa. L'Assemblée nationale avait institué une commission spéciale. Je me rappelle bien, cette commission était dirigée par le député qui est en exil, le député national Matata Mponyo, qui a déposé un rapport à l'Assemblée nationale. Parmi ces rapports-là, on avait décidé qu'il y ait urgemment accélération des travaux des routes secondaires. Et le gouverneur, j'avais suivi le gouverneur de la ville province de Kinshasa, qui est revenu en disant, donnez-moi seulement 2 mois. Et là, c'était au mois d'octobre. Il a dit, donnez-moi 2 mois, c'est-à-dire le mois de décembre. Toutes les routes seront déjà clôturées. Et est-ce que le gouverneur de la province de Kinshasa peut nous dire pourquoi il y a toujours des embouteillages à Tchangou? Oui, justement, parce que lorsque le roi du Qatar est arrivé ici, si vous avez été sur l'axe Tchangou, on a tout fait pour faire évacuer tous ces marchés qui ont déjà débordé sur toutes les routes principales. On les a fait évacuer en les injectant derrière la commune de Massina, d'Enjili, de Kimbasek, ainsi de suite. Après le passage du roi du Qatar, les gens sont rentrés encore sur le voie publique. Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi on n'arrive pas à finir le travaux qu'on a promis que ces travaux seront clôturés au mois de décembre déjà passé? Les travaux n'évoluent pas. Les travaux sont suspendus. 1 kilomètre, ça peut vous prendre 12 mois. On a signé avec quelles entreprises? Voilà pourquoi je dis. Il y a certaines décisions, avant de les prendre, il faut d'abord avoir du respect aux Congolais, particulièrement aux Kinois. Bon, maintenant là qu'on va demander aux véhicules, voilà, si vous n'êtes pas en ordre, vous n'allez pas circuler. C'est-à-dire, au lieu de répondre plutôt à une problématique de mettre les citoyens dans les conditions confortables, cette situation vient mettre encore les citoyens dans des conditions inconfortables parce que le gouvernement n'a pas trouvé des réponses par rapport au transport de Kinshasa. Qu'il s'assoit avec Transco, qu'il s'assoit avec d'autres moyens. Ça veut dire que les citoyens lambda qui ont leurs moyens de déplacement seront contraints avec les enfants et toute la suite de ne plus se déplacer avec. Que ce soit les gouverneurs, que ce soit tous les membres du gouvernement, ils sont payés pour faire un travail de qualité. Ce n'est pas se réveiller le matin, faire des déclarations, mettre les gens dans des situations inconfortables et pourtant il y a des solutions qui doivent être trouvées. Qu'est-ce qu'on a fait du rapport de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est ce que l'Assemblée nationale avait recommandé? Si ce n'est pas ça, pourquoi on a rejeté les propositions de l'Assemblée nationale? Et d'où est venu maintenant ce schéma de vouloir mettre des gens brigands et parfois qui ne sont pas dans leur état normal pour pouvoir maintenant réglementer la route?
Merci. Merci Benoît Faït, vous êtes journaliste à la RTBF. Pouvez-vous partager avec nous l'expérience de la Belgique dans la gestion de la circulation routière?
Bon, je vous avoue qu'il y a effectivement pas mal d'embouteillages à Bruxelles aussi, mais c'est pas comparable à ce qu'on connaît à Kinshasa. Je vais régulièrement à Kinshasa depuis de nombreuses années. Et mon expérience, certainement comme la plupart des Kinois, c'est que les choses semblent s'empirer. J'ai été par contre assez alerté il y a ça quelques mois, peut-être même un an, je ne sais plus précisément, quand le ministre des Transports congolais était apparu sur Radio Top Congo FM, je pense, chez vos confrères, avec des photos montrant la situation sur le périphérique de Paris et en arguant que, en fait, c'était un problème mondial, que toutes les capitales du monde connaissaient des embouteillages. Et là, j'avais quand même l'impression que le ministre était un petit peu dans le déni parce que ce qui se passe à Kinshasa est assez particulier. Et vos invités l'ont très bien rappelé, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Il y a évidemment des problèmes d'infrastructure, d'investissement, mais il y a aussi des problèmes d'incivisme. Et cet incivisme, Moi, je pense que l'action civique doit toujours être, on doit prêcher l'exemple quand on est une élite politique. Et là, il y a quelque chose qui a vraiment, et ça a été rappelé par Johnson, il y a aussi le problème, il faut pas avoir peur de le nommer, de tous ces convois, on va dire, presque privés de personnalités politiques, mais pas que, il y a parfois aussi l'entourage familial de certaines personnalités politiques qui bénéficient de convois, qui sont entourés d'agents politiques, qui se comportent tels que Johnson nous l'a rappelé, qui pose aussi problème, qui crée aussi des embouteillages. Alors certes, les conducteurs, les conductrices quinoises ont parfois tendance à un peu déborder sur les bandes et à prendre certaines libertés avec le code de la route, ce qui crée des embouteillages inextricables. C'est sûr que cet incivisme est une partie du problème, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à rappeler aussi que l'exemple devrait être montré par le haut. Et puis, il faut aussi reconnaître que si les citoyens prennent certaines libertés avec le code de la route, à un moment, c'est presque par réflexe de désespoir, de dépit, en se disant, il faut que je m'en sorte, tant pis si je crée un embouteillage. Moi, j'essaye personnellement de m'en sortir. Et on voit aussi, on a parlé notamment de ce qui se passe à Canggu, on voit très bien qu'une des raisons principales pour laquelle il y a des embouteillages monstres par endroit sur le prolongement du boulevard Lumumba, c'est en fait parce qu'il y a tous ces esprits de mort, comme vous les appelez à Kinshasa, tous ces bus qui s'arrêtent, mais qui ne s'arrêtent pas sur une ligne, qui s'arrêtent parfois sur deux, trois ou quatre lignes, qui bloquent littéralement le passage des autres véhicules. Mais si les gens font ça, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas véritablement d'organisation sur ces arrêts de bus. Et donc voilà, c'est un problème complexe, mais la Belgique n'a pas plus de leçons à donner au Congo que n'importe qui en la matière. Je pense que, comme pour tout, c'est aux Congolais à gérer eux-mêmes leur réalité. Mais quand j'ai entendu le ministre des Transports il y a quelques mois nier le problème, je me suis dit qu'on n'était pas vraiment en train de prendre les choses par le bon bout. Mais voilà, semble-t-il que le gouverneur a décidé de prendre les choses en main. Maintenant, est-ce que 3000 agents, ce sera assez? Est-ce que ça pourra combler des problèmes d'infrastructure, des problèmes de culture, je dirais presque, d'habitude routière? Et surtout, comment se comporteront ces agents, dont on sait que parfois, ils prennent certaines libertés avec leurs fonctions? Toutes ces questions restent en suspens. Mais il est sûr que circuler à Kinshasa est à l'enfer, et ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes aux Kinois. Il faut donc régler ça au plus vite.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le lundi 5 janvier dernier, c'était la date anniversaire de Paul Bakunde Ilonjoko, connu sous le nom de Bakunde Ilo Pablo. C'est auteur, compositeur, batteur et musicien congolais qui a évolué dans l'orchestre Zaiko Langalanga. Il est né à Kinshasa le 5 janvier 1951. Malheureusement, Bakunde Ilo Pablo nous a quittés le 20 septembre 2011, toujours ici à Kinshasa, à l'âge de 60 ans. À l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, nous allons écouter l'une de ses compositions intitulée « L'oiseau rare », une chanson composée quand il faisait partie de l'orchestre Zaiko Famila Dei. On écoute donc « L'oiseau rare » et on revient juste après.
La zona se venía de la noche para hoyo.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir des 21h, et chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet du soutien de la Belgique et de la France à l'initiative de la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC. Nous avons également analysé la série des mesures que vient d'annoncer le gouverneur de la ville des provinces de Kinshasa pour réguler la circulation à Kinshasa. Participe à cette émission Johnson Ishara, il est membre de la société civile du Nord Kivu, il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente d'IGENEC RDC ASBEL. Il est aussi chercheur en gouvernance sécuritaire et politique et activiste engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Madame Grace Chaco est journaliste à la STGA FM, émettant de Kinshasa. Elle est aussi coordonnatrice de l'ONG Leadership de la Femme des Médias. Elle est aussi conférencière. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. 65 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, la justice belge s'est de nouveau penchée mardi 20 janvier sur les suites judiciaires à donner à l'enquête en cause. Une enquête ouverte en 2011 sur les responsabilités individuelles dans la mort du premier ministre de la République démocratique du Congo après la reconnaissance par la Belgique de sa responsabilité morale à l'issue d'une commission parlementaire en 2001. Benoît Feit, vous avez souhaité nous parler de cette actualité en rapport avec une possible ouverture d'un procès en Belgique contre Étienne Davignon, qui est le dernier, n'est-ce pas, des accusés dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et qui a aujourd'hui 93 ans. On vous écoute.
Oui, Guy, il faut donc souligner que 65 ans après l'assassinat sordide de Patrice Lumumba, la Belgique est toujours hantée par cette page atroce de son histoire. On sait que la Belgique a une responsabilité dans cet assassinat, ça ne fait absolument aucun doute. Une commission parlementaire a, du bout des doigts, reconnu, il y a de ça une vingtaine d'années, une responsabilité morale de la Belgique. Mais l'opinion publique sait bien que la responsabilité de la Belgique dans cet assassinat va bien plus loin qu'une responsabilité morale. Mais toujours est-il que 65 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, il n'y a toujours pas eu de procès, il n'y a toujours pas eu d'accusé, il n'y a toujours pas eu justice. Tous les responsables de cet assassinat sont morts entre temps. Il en reste un vivant, Étienne Davignon, 93 ans, 93 ans. Il est en fait le dernier qui apparaissait sur une liste de 10 personnalités que la famille Lumumba tente de poursuivre depuis 2011. Et la justice belge a été tellement lente à traiter l'affaire jusqu'à présent que 9 de ces personnalités sont décédées entre temps. La dernière en date étant Jacques Brassine, qui est décédé il y a de ça plus ou moins 2 ans. Étienne Davignon est donc le dernier vivant. La justice belge s'est réunie le 20 janvier dernier, a entendu les différentes parties, avocat de la famille, avocat d'Étienne Davignon, et doit donc se prononcer le 17 mars prochain sur un possible renvoi d'Étienne Davignon devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Alors, qui est Étienne Davignon? Vous le savez sans doute, il était très jeune à l'époque, c'était un conseiller diplomatique belge, et ce qu'il faut peut-être souligner dans cette affaire, c'est que si c'est lui, aujourd'hui, qui est au cœur de cette affaire, il n'était à l'époque qu'un deuxième ou un troisième couteau. Tous les véritables responsables de l'époque, ministre des Affaires africaines, ministre des Affaires étrangères, conseiller au Palais Royal, et peut-être même, ça reste toujours vraiment la grosse pardon, quel a réellement été le rôle du roi Baudouin lui-même à l'époque, ce sont toutes des choses qu'il aurait bien fallu éclairer. Malheureusement, toutes ces personnes sont décédées. Donc, Étienne d'Avignon, finalement, paye un petit peu le décès de tout le monde. Mais ce serait symboliquement fort que la Belgique poursuivre enfin cette personnalité, qu'il y ait un véritable procès, qu'on puisse, devant un tribunal, déverser toutes les pièces à conviction qui démontrent les raisons, le contexte dans lequel Patrice Lumumba a été assassiné, les raisons pour lesquelles la Belgique a cherché à le faire assassiner, comment elle s'y est prise. Jusqu'à présent, les journalistes en ont beaucoup parlé, les historiens en ont beaucoup parlé, mais malheureusement, la justice n'a encore rien dit à ce sujet. On est donc toujours en attente d'une vérité judiciaire.
Justement, Benoît Faït, 65 ans après, à votre avis, quels pourraient être les obstacles à la manifestation de la vérité dans ces procès, si jamais il est organisé?
Les obstacles sont les mêmes que ceux qui existent depuis plus d'une dizaine d'années. C'est de la lenteur judiciaire, évidemment. À 93 ans, Étienne d'Avignon a peut-être... Je lui souhaite personnellement encore de belles années devant lui, mais la lenteur judiciaire est telle qu'on ne s'attend pas véritablement à un procès avant plusieurs années. Et c'est ça aussi la difficulté en Belgique, c'est que les raisons de ce blocage, les avocats de la famille Lumumba, l'avocat de Mimo, parce qu'ils évitent évidemment d'affirmer des choses sans pouvoir le démontrer, mais on n'a pas senti, pour le dire autrement, de réelle volonté en Belgique de mettre toute la lumière sur la vérité. Peut-être que Étienne d'Avignon ne sera pas renvoyé devant le tribunal correctionnel, il n'y aura peut-être pas de procès, il y en aura peut-être un, et s'il y en a un, on ne peut pas évidemment décider l'issue, mais ce qui est important, je pense, pour la famille Lumumba elle-même, c'est que ce procès ait lieu pour qu'enfin elle ait le sentiment que la Belgique fait son travail en termes de justice, ce qu'elle s'est toujours refusée à faire, essentiellement pour des raisons politiques, pour des questions de honte probablement, parce que quand on sait ce qu'il y a dans le dossier, on peut imaginer qu'on n'a pas très envie d'en faire la publicité, ce serait montrer à quel point la Belgique s'est comportée comme une puissance coloniale criminelle à l'époque de l'indépendance. Peut-être que le contexte mondial aujourd'hui aide un petit peu, on évoque beaucoup plus le passé colonial, des puissances coloniales, en soulignant tous les crimes, toutes les atrocités. Peut-être que l'ère du temps aujourd'hui est plus propice à une vérité judiciaire. C'est ce qu'on verra.
Merci Madame Grace Chaco. Les acteurs impliqués dans cet assassinat sont presque tous décédés. Et je ne sais pas s'il sera encore possible aujourd'hui, n'est-ce pas, d'identifier les probables témoins dans cette affaire. Mais comment vous entrevoyez le déroulement et même l'issue d'un tel procès s'il est organisé?
Benoît l'a souligné tout à l'heure. La lenteur dans la justice ferait que ce dossier va être freiné, mais il y a aussi les implications politiques et diplomatiques de la Belgique. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin que ce dossier salisse un peu la mémoire de tout un peuple? Parce que la vigueur, je vais l'appeler comme ça, le dynamisme du peuple congolais, il va accuser systématiquement tout le système belge. Donc ça va vraiment aller dans tous les sens. J'étais moi-même en novembre, pendant deux semaines à Bruxelles. Je suis allée dans les institutions européennes, mais j'ai également rencontré la diaspora congolaise qui est vraiment très active sur ce dossier, surtout en termes de colonisation ou décolonisation des places publiques. Et c'est vraiment un sujet assez susceptible. Mais je pense que c'est vraiment un symbole, un signal fort sur la symbolique. Il faut qu'il y ait un procès. Il faut que la justice dise quelque chose. Patrice Emery Lumumba, ce n'est pas seulement un ancien Premier ministre, c'est un symbole, en fait, aujourd'hui. Il représente le symbole. Et récemment, avec tout ce qui s'est passé à la... C'est lui qui a représenté Lumumba à la CAN, on l'appelait la statue vivante. Il a réveillé un esprit africain, c'est un symbole de souveraineté, de dignité, de lutte contre l'impérialisme. Et il faut absolument qu'il y ait une vérité qui soit dite au niveau de la justice. Donc à mon avis, je pense que c'est cela. Le procès, il est très important, surtout historiquement, mais aussi pour les familles et pour les générations futures. Le déroulement du procès se passera comment? On ne sait pas imaginer. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un procès pour que nous puissions mettre les mots, avoir d'éclaircissement là où il y a sur les crimes politiques. Donc ça nous rappelle un peu qu'il faut que les crimes politiques ne restent pas impunis, même quand le temps est passé. Voilà mon avis.
Merci, Johnson Noïchara. Les derniers accusés, nous l'avons dit ici, les derniers accusés encore vivants dans cet assassinat, c'est Étienne Davignon qui a aujourd'hui 93 ans. Et à votre avis, est-ce qu'on peut espérer qu'à l'issue de ce procès, la vérité pourrait éclater sur l'assassinat de Lumumba?
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Je pense que, honnêtement, à la veille de sa vie déjà, avec cet âge, je pense que il n'a plus grand-chose à perdre et il peut nous surprendre qu'il relate maintenant toute la vérité véritablement véridique pour éclairer les historiens et pour éclairer également la justice et le Congolais en général. Parce que derrière la vie de Lumumba, M. Guy, il faut quand même dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mensonges. Et comme le Belge avait tout fait à son temps avec le contrôle du système éducatif congolais, on nous a fait gober des questions aujourd'hui que quand on se les pose en état adulte, on n'a pas de bonnes réponses. Et je pense qu'il y a que ce genre de procès qui peuvent quand même arriver à éclairer la lanterne. Vous pouvez quand même noter, M. Guy, que dans cette histoire de Lumumba, imaginez-vous, un premier ministre est de son rang. Il voit que son pays est menacé. Il quitte son pays pour aller demander de l'aide à la tribune des Nations Unies. Et le Conseil de sécurité accepte quand même d'envoyer des contingents. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il a été arrêté? Tout un premier ministre a été arrêté en présence des contingents que lui, il a invités dans son pays pour aider à pallier aux problématiques sécuritaires. Et puis, ça ne s'est pas limité par là. Étant même dans sa prison, avant qu'il puisse envoyer la dernière lettre à sa femme, Lumumba avait saisi non seulement le secrétaire général de l'époque des Nations Unies, il avait saisi aussi les représentants de la mission onusienne à l'époque en République démocratique du Congo pour expliquer sa situation dans la prison. Pourquoi de part et d'autre, il n'a pas réussi des réponses? Et puis, comme ça ne suffisait pas, rappelez-vous, M. Guy, qu'un secrétaire général des Nations Unies a commis un accident d'avion sur Douala, la République démocratique du Congo et la Zambie. Dag Hammarskjöld, qui était un Suédois, qui a connu un accident d'avion. Je suivis les informations récemment où les Suédois quand même réclamaient aussi la vérité derrière ça, justement parce qu'ils s'étaient aussi déplacés pour venir s'acquérir exactement des problématiques de la République démocratique du Congo à cette époque. Et en sortant l'accident, même la boîte noire de l'avion n'avait pas relaté exactement qu'est-ce qui s'était passé. Donc voilà le mystère autour de cette mort-là. Bon, mais là qu'il y a eu des implications à tous les niveaux, je pense que comme Mme Grasse l'a dit, comme le co-débatteur également qui est en ligne depuis RTBF, c'est qu'on a quand même, nous, en tant que peuple congolais, en tant qu'une génération qui veut savoir la vraie histoire, parce qu'il n'y a pas un peuple sans histoire, et on ne veut pas laisser tomber notre âme, parce que notre âme également s'indicie à travers notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin que ces procès puissent avoir lieu. Donc, en vérité, je crois qu'avoir un procès comme ça, avec une personne qui n'a plus rien à gagner, rien à perdre, il peut quand même donner des traces, bien que ça ne soit pas lui, en tout cas, l'accusé principal qu'on attendait. Il y a eu beaucoup d'implications, oui, parce qu'on sait que de 1885 jusqu'à 1908, déjà avec le caoutchouc rouge, on avait déjà enregistré plus de 5 millions de morts de Congolais. De 1908 jusqu'à 60, on avait déjà enregistré plus de 3 millions de Congolais morts. Alors, je pense que l'histoire étant l'histoire, ben, le peuple congolais aimerait savoir bien ce qui s'est passé. Là où je suis un peu inquiet, c'est de voir quand même que ce soit sa famille qui avait déposé la plainte. Mais au rang quand même du Premier ministre, j'aurais bien voulu que ce soit le gouvernement congolais qui prenne des taureaux par le corne. Parce que je sais que lors de l'avènement de l'assassinat de Lumumba, le feu, Étienne Tshisekedi, était vice-ministre de l'Intérieur à l'époque, donc ils avaient quand même des informations à leur possession à nous livrer. De part et d'autre, l'histoire reste l'histoire. La vérité historique reste vérité historique. Mais nous, en tant que Congolais, après toutes ces années, on a quand même besoin de savoir quelle est le son des cloches des véritables acteurs et les auteurs de cet assassinat, de ces grands hommes.
Merci. Merci. On prend une petite pause en écoutant Malaika. Malaika, cette version interprétée par le groupe Boni M. On se retrouve juste après.
Malaika, nakupende Malaika. Malaika, nakupende Malaika.
Namini fanyeye. Itwa na wenzio. Nashindwa la malise na we. Nimekuoa malaika. Nashindwa la malise na we. Nimekuoa malaika.
Malaika, Malaika, l'une des chansons les plus interprétées au monde. Et là, nous venons d'écouter la version interprétée par le groupe musical Boney M. Je rappelle que nous avons dans cette émission Johnson Ishara, membre de la société civile du Nord Kivu. Il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente du GENEC RDC ASBEL. Il est aussi chercheur en gouvernance sécuritaire et politique et activiste engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Madame Grace Chaco est journaliste à la RTGA FM, émettant de Kinshasa. Elle est aussi co-donatrice de l'ONG Leadership de la Femme et des Médias. Elle est également conférencière. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feig, téléjournaliste à la RTBF. Le groupe d'experts des Nations Unies a transmis au président du Conseil de sécurité un rapport consacré à la situation en République démocratique du Congo. Ces documents mettent en lumière la dégradation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Dans une lettre datée du 30 décembre 2025, les experts affirment que l'AFCM-23 a cherché à se positionner comme une autorité de substitution à l'État congolais dans les zones qu'il contrôle. Les rapports indiquent que l'AFCM-23 a établi dans ces territoires des structures administratives, judiciaires, budgétaires et sécuritaires, assumant ainsi les fonctions essentielles de l'État. Le rapport souligne que dans le Nord et Sud Kivu, malgré les avancées réalisées dans les efforts de médiation, la situation sécuritaire s'est détériorée, marquée par des violents affrontements armés. La situation humanitaire a également empiré avec une multiplication alarmante des attaques généralisées et systématiques contre les civils ainsi que des violences sexuelles liées au conflit. Johnson Ishara, vous avez souhaité nous parler de ces drames humanitaires et économiques à l'est du pays en vous posant la question de savoir quelle approche gouvernementale pour des réponses rapides en intervention aux populations en détresse. On vous écoute.
Oui, monsieur Guy, il faut dire que, comme vous l'avez dit tantôt, pour qu'on arrive à une crise humanitaire, pour qu'on arrive à une crise économique, il y a une crise qui a précédé, et cette crise, c'est la crise sécuritaire. Donc, cette crise a, maintenant, sur son passage, créé maintenant des situations indésirables aujourd'hui. On peut imaginer que, du point de vue humanitaire, monsieur Guy, ce sont des gens qui ne savent pas où dormir, manger et quel sera le lendemain. Alors, nous avons été dans une réunion avec la mission onusienne, c'est-à-dire la MONUSCO avec sa représentation nationale. Ils nous ont dit qu'ils ont enregistré déjà plus de 800 000 réfugiés. Et là, en parlant des réfugiés, on ne parlait pas des déplacés, parce que les déplacés sont également en masse dans tout le territoire, que ce soit Massissi, que ce soit Nyiragongo, que ce soit Calais, aux environs des plateaux de Ouvira et à Beni aujourd'hui. Beni est très inondé. Donc nous avons pratiquement de nombreux Congolais dont leur vie est suspendue à l'air. On ne sait pas, comme si ça ne faisait plus rien sur la toile d'araignée. Et ça devient compliqué par rapport à ces drames-là. Toutes ces femmes qui sont enceintes aujourd'hui, tous ces enfants, et que nous sommes dans une situation plus vieille. Ces bébés-là qui sont en train d'être mouillés dans leur petite maisonnette, et encore de maisonnettes sans tôle. Ce sont des maisonnettes avec des bâches. Et parfois, quand il pleut, ces bâches sont déjà trouées, et le bébé peut être mouillé et se retrouver à l'intérieur. Donc c'est une situation catastrophique du point de vue humanitaire. Et à cette question humanitaire s'ajoute maintenant la question économique. Sachez, monsieur Guy, que le passage de cette crise sécuritaire a créé une vague de désastres économiques. Vous avez, c'est vrai, il y a des images qui faisaient rire certains compatriotes, mais on ne s'imaginait pas la conséquence de ça. Ces images de pillage. Et c'est comme tout était programmé. Les grandes agglomérations ont connu un pillage programmé, non protégé. Et chacun pouvait faire ce qu'il veut. Quel était l'élément déclencheur de tout ça? Parce qu'il y a des entités où même quand il y a des affrontements, on ne subissait pas ce genre de pillage. Mais on a des grandes villes. La ville de Goma, c'est une ville stratégique. Il y a eu un pillage des déshonneurs, ce qu'on a vu. Et ce pillage a mis beaucoup de familles par terre. La ville de Bukavu, c'est une très grande ville également, avec sa grande société Braliment et tout ce qui va avec, Pharmacina. Ces sociétés qui ont été dévastées, c'était un message fort économiquement. La Braliment elle-même, qui faisait entrer combien dans les caisses de l'État, qui engageait combien de Congolais qui vivaient à travers les activités, et que à travers ça, tous ces gens-là sont maintenant au chômage. Alors, on parle maintenant de la ville d'Ouvira. Vous avez vu ce qui s'est passé quand la ville est tombée, il n'y avait pas de pillage. Qu'est-ce qui peut expliquer que quand l'ennemi décide de quitter, il y a maintenant un pillage systématique. Et le pillage là, pour moi, étant quelqu'un qui connaît bien cette zone, que ce soit Goma, que ce soit Bukavu, Ouvira, ce sont des zones que moi je connais, quelqu'un aurait donné le go pour que ce pillage soit organisé. Alors, c'est quoi derrière ça? C'est qu'il y a vraiment ce sabotage. Mais face à tout ça, nous avons quand même un gouvernement. On ne va pas nous dire que les gens ont tous démissionné de leur responsabilité. Nous avons un ministre de l'économie qui devrait maintenant mettre fin aux conférences du matin, midi et soir et trouver plutôt des solutions par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Nous avons un ministère des Affaires sociales. Oui, le social, on en a besoin. Le social, ce n'est pas seulement attendre qu'il y ait des catastrophes naturelles où on doit aller enterrer des gens, indemniser des familles qui ont perdu. Ce n'est pas ça. Le social, c'est également prévenir que le danger ne puisse arriver. Alors, notre souci en tant qu'organisation qui intervient dans la défense des droits humains, franchement, on aimerait voir qu'il y ait une commission ad hoc mixte gouvernementale qui doit se réunir au moins une fois par semaine pour savoir comment ces Congolais-là, qui vivent en errance, sont en train de vivre. Les Congolais qui sont au Burundi, comment ils sont en train de vivre? On les Merci a tous amenés dans un camp de réfugiés. Mais ils vivent comment? Voilà, c'était justement cette question troublante qui a attiré notre attention et qu'on a voulu évoquer dans cette émission aujourd'hui.
Merci, Benoît Faït. Pourquoi, à votre avis, ce drame humanitaire semble ne pas interpeller les décideurs et même les bailleurs de fonds sur les plans national, régional et international?
Oui, Guy, c'est une excellente question et j'aimerais beaucoup vous donner une réponse claire et je ne peux juste faire que des suppositions parce qu'en fait ce drame humanitaire, c'est pas à vos invités et à vos auditeurs que je dois le rappeler, évidemment, dure depuis déjà presque une trentaine d'années, ce n'est jamais qu'une accumulation de drames humanitaires qui se déroulent à l'Est avec une situation qui s'aggrave et qui aujourd'hui est fort inquiétante parce que on a quand même l'impression que le pays est de plus en plus divisé de manière presque Rennes. On sait que la FCM 23 est en train d'organiser une forme d'administration qui s'installe aussi dans les territoires que cette rébellion occupe. On sait aussi tout le soutien de Kigali à cette rébellion et à l'implication directe de Kigali avec toutes les visées politiques, économiques du gouvernement rwandais et de son président en particulier. Donc le rapport de force pour l'instant ne plaide pas du tout en faveur de la République démocratique du Congo. Les divisions internes du politique, je dirais, congolais de l'opposition, on en parlait en boucle un petit peu la boucle de cette émission en revenant là-dessus aujourd'hui, enfin, à ce moment-ci, c'est toute la question de l'unité aussi de la classe politique congolaise pour amener à un vrai projet pour lutter contre cette occupation. Mais j'ai un peu aussi une inquiétude, c'est de me dire que il y a une forme d'habituation à ce drame humanitaire, et c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est que on a l'impression que quand on évoque dans les médias belges, je peux parler que de mon exemple, le drame à l'est du Congo, ça n'émeut plus autant que ça pouvait le faire il y a plusieurs années, comme si dans l'opinion publique, cette région du monde était vouée à vivre dans la détresse humanitaire. Et ça, ça devrait tous nous alerter, parce que ça ne plaide pas évidemment en faveur d'une résolution du problème. C'est comme si le plus, vous connaissez cette expression, hein, loin des yeux, loin du cœur, on a l'impression, mon impression en tant que journaliste, traite de cette actualité auprès de l'opinion publique belge, j'ai de plus en plus du mal à capter l'intérêt du public pour cette question, et je vous avoue que je suis assez dépité à ce sujet-là.
Merci Madame Grace Chaco, nous allons finir cette émission avec vous. On sait que la solution idoine à cette question, ce serait la fin de la guerre, mais pour le moment la guerre est toujours en cours. Mais à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait dans l'immédiat pour soulager tant soit peu la souffrance de ces personnes déplacées et réfugiées?
Alors, je pense que comme l'a dit vos invités, ils l'ont déjà souligné de manière claire, et vous l'avez dit, hein, la solution c'est la paix, et on l'a dit, je l'ai dit au début de l'émission, on a besoin d'un pacte réel, c'est la paix. Je pense que le ministère des Affaires Sociales, que je suis depuis que Madame El Bazaï Badiri est le ministère, depuis le remaniement, elle est allée il y a 2 semaines au Burundi, ensuite en Tanzanie, pour voir les réfugiés qui sont là-bas. Elle-même a fait des déclarations assez troublantes pour dire que même les camps des déplacés étaient infiltrés par les rebelles. Elle a trouvé une situation alarmante avec des milliers de familles. Donc, elle y est allée au nom du gouvernement. On va dire que ce n'est pas du gouvernement envers les réfugiés qui sont à l'extérieur du pays. Alors, ce qu'elle a trouvé, elle a justement fait rapport. On ne sait pas encore comment le gouvernement va réagir tout de suite après, mais c'est quand même quelque chose. On ne va pas dire que ce n'est rien que le gouvernement a fait sur l'action des réfugiés. Donc, elle y a emmené les vivres, etc. On a vu cela. Donc, la situation reste dramatique. Moi, ça me touche personnellement parce que, en tant que coordonnatrice d'une ONG des femmes, nous gérons cette situation au quotidien. Nous la gérons au quotidien. On a des alarmes qui viennent au jour le jour. On a simplement l'impression que les petits moyens, que ce soit de la part du gouvernement ou de la société civile, ne suffisent pas, en fait, pour dire quelle est cette solution qui peut calmer en attendant. Il n'y en a pas. C'est d'abord vraiment résoudre de manière urgente ce problème sécuritaire. Mais après, je pense qu'il faut continuer à réfléchir, un peu comme l'a dit Johnson, sur le fait qu'il faut mettre en place une commission pour statuer sur ça, un peu comme quand Ouvira a eu ce problème humanitaire et que la première ministre a fait venir en urgence une réunion pour évaluer la situation sécuritaire humanitaire dans la ville d'Ouvira. Je pense qu'il faut continuer, il faut que le gouvernement montre sa volonté de changer les choses et de garder sa population dans des bonnes conditions. Il faut continuer à renforcer l'assistance humanitaire d'urgence. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que cette assistance humanitaire, comme je viens de le dire, soit ponctuelle, soit périodique, un peu du matin vu pour montrer qu'on a fait quelque chose ou qu'on fait quelque chose. Il faut que ça soit permanent et que ça reste dans la durée. Je pense aussi qu'il faut aussi continuer à s'attaquer vraiment aux causes profondes du conflit pour trouver des solutions. C'est un peu ce qu'on disait au début, dialogue ou pas dialogue, est-ce qu'il faut avancer du côté diplomatique ou pas pour arriver à trouver des solutions pérennes. Mais je ne sais pas si
dans notre entendement commun, ça c'est mon avis personnel, le Congolais a tendance à voir l'impulsion venir du président de la République. Donc même lorsque Mme Eve Bazaïba est allée de l'autre côté, même si c'est la première ministre, on attend souvent la position du président de la République. Et le président de la République ne se prononce pas très souvent sur les questions humanitaires, lorsque ça touche aux femmes et aux enfants. À la limite, c'est peut-être la première dame, mais c'est pour qu'il montre aussi son implication de manière personnelle, l'implication de son gouvernement. Il faudrait que le président de la République prenne la parole, parle de temps en temps, reconforte et montre vraiment qu'il est du côté de la population qui souffre, mais aussi donne des injonctions claires en plein conseil de ministres, comme l'a dit Johnson tout à l'heure. Qu'est-ce que le ministre de l'économie fait? Comment on relève l'économie après une telle crise? Toutes ces choses, nous n'avons pas l'impression, c'est vrai qu'il est sur le front diplomatique en train de vouloir terminer la guerre, mais il faut que les aspects humanitaires soient de manière pérenne assurés, en fait. Voilà.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Benoît Faït, Madame Grace Chaco et Johnson Ishara. Merci aussi à Paul Bajanyama qui est à la technique avec la participation de Dieudonné Nyangassa, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce samedi soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Lisanga ya Bambanda, une composition de Rochero Tabouley, interprétée par la reine Cléopâtre Mbilia Abel dans l'orchestre Afusa International. Et on se retrouve le samedi prochain.
Bosala.